Subiment
Méga Combi.
Ce monde-là.
Carte postale.
Dimanche, la manifestation interdite de soutien aux migrants a bien eu lieu. La police avait fait le choix de ne pas bloquer dès le début le rassemblement, qui regroupait un millier de personnes, pour ne pas donner aux médias l'image d'une population muselée, encerclée par les forces de l'ordre. Ils espéraient sans doute que les contestataires se tiendraient sagement sur le trottoir devant l'Opéra Bastille. Raté. Quelques dizaines ont investi la rue en courant, bravant les tonfas et les gaz lacrymogènes, esquivant les quelques CRS placés sur leur chemin, ouvrant ainsi la voie à une belle manif sauvage qui relia la place de la République et ses hommages aux victimes des derniers attentats.
Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté ! Liberté !
Il y avait une manif de solidarité avec les migrants qui a été interdite dans la logique de l'état d'urgence. Et aujourd'hui, je crois que presque 2000 personnes ont dit qu'on est solidaire avec les migrants et qu'on est contre le fondamentalisme Daesh comme au fascisme de Hollande qui a interdit d'exprimer la liberté et la solidarité avec les migrants. Ils expulsent les migrants tous les jours.
Démonstration était faite qu'on peut respecter la mémoire de nos morts tout en continuant à vivre, à lutter pour l'ouverture des frontières et contre l'état d'urgence. Aucun contrôle, aucune arrestation ne vint gâcher la fête. Sauf que dès mardi, des dizaines de personnes recevaient à leur domicile une invitation à se rendre au commissariat, accusées d'avoir participé à une manifestation interdite. Comment ont-elles été identifiées ? La police ne le précise pas. On peut facilement imaginer qu'elle a recoupé des vidéos de la manifestation avec les fichiers des renseignements généraux. Une méthode à peu près inédite pour des faits tellement anodins. Dimanche, aucune violence, aucune dégradation. On parle bien ici de quelques zigzags effectués sur la chaussée, au milieu d'une vingtaine de représentants de la maréchaussée. Intimider, réprimer ceux qui ne réclament que l'exercice de leur liberté fondamentale de réunion et d'expression publique, voilà une des réalités de l'état d'urgence aujourd'hui. Dans le même temps, le convoi de 200 cyclistes et quelques tracteurs, partis de Notre-Dame-des-Landes en direction de Paris, se voit notifier l'interdiction d'entrer en Île-de-France, et même en Eure-et-Loire. Le gouvernement ne veut pas que la COP21 soit l'occasion de parler de son funeste projet d'aéroport. Demain, une nouvelle manifestation est prévue contre l'état d'urgence à Paris. Vendredi, le convoi de la ZAD essaiera malgré tout d'entrer en Eure-et-Loire. Samedi, des marches pour le climat devraient se dérouler un peu partout, et même à Lyon. Et dimanche, la coalition Climat 21, qui regroupe 140 organisations, loin d'être toutes révolutionnaires, appelle à une chaîne humaine dans Paris pour remplacer la marche mondiale pour le climat, qui a elle aussi été interdite. Autant d'occasions de retrouver le plaisir de la rue, malgré la douleur encore là des attentats, et malgré la terreur que tente de propager le gouvernement sur tous ceux qui prétendent encore donner de la voix.
Tu vois, Mégacombi, c'est un truc qui prend, ça va exploser, c'est de la radio.
Prime Time.
Tous les mercredis à 18h.
Méga Combi, Prime Team, Prime Time.
C'est le Prime Time de Méga Combi ?
Non, je crois que c'est la Prime Team de Méga Combi, non ?
La Prime Team de Méga Combi.
À 18h, ce mercredi.
Salut.
Salut.
Ça va la pêche?
Bah ouais, 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 trop bien.
La pêche quoi, trop bien.
Eh oui, ça fait 12 jours maintenant que la France vit sous l'état d'urgence et ça a profondément changé notre quotidien. Nous avons rompu avec la routine de notre société postmoderne et ça fait du bien car, comme le disait le préfet Erignac,
se sentir en danger, c'est aussi se sentir vivant.
Alors, en partenariat avec l'opération du ministère de l'Intérieur baptisée
l'état d'urgence, c'est tendance,
nous sommes partis observer ces petites scènes de vie qui nous semblent aujourd'hui exceptionnelles mais qui deviendront très vite anodines.
L'état d'urgence, c'est tendance.
Alors la première personne que nous avons rencontrée, c'est Michel, gardien de la paix depuis une quinzaine d'années.
Ça faisait quand même des années qu'on attendait ça.
Michel vient de sortir de son service au commissariat de la place Bahadourian et il arbore fièrement son Magnum 357 qu'il fait tourner autour de son doigt.
Ah, les gens sont vachement plus sympas hein. Non, mais j'ai plus aucune embrouille. Avant, ça m'arrivait souvent en rentrant du boulot de me faire agresser dans le métro. Puis bon, vous savez comment ça, il n'y a jamais personne qui intervient.
À la maison aussi, Michel se sent mieux.
Chérie, c'est un peu dégueu par terre.
Ben non, j'ai fait le sol ce matin.
On dirait pas.
Oh non, Michel, tu vas pas recommencer,
si.
S'il te plaît.
Si, tu repasses
non,
la serpillière.
Tu m'as déjà trouvé le pied droit hier. Si tu continues,
un,
tu ne peux pouvoir rien
deux,
faire. S'il te plaît.
Deux et demi.
Ok, je vais chercher le seau.
Michel se sent enfin respecté en tant qu'homme.
L'état d'urgence, c'est vraiment tendance.
Moi, j'aime bien les transports depuis qu'ils ont mis la télé. Tiens, l'horoscope.
Stéphanie, elle, prend le C3 tous les jours à Hôtel de Ville. Avec l'état d'urgence, il faut s'y prendre un petit peu à l'avance.
Le premier jour, bon, j'avais pas trop prévu, du coup je suis arrivée une heure en retard au travail.
En effet, avec la mise en place des portiques à l'entrée des bus, la montée est parfois moins fluide.
Mais bon, faut pas dramatiser, hein. Moi, ça me laisse le temps de retoucher mon maquillage. Et puis avec la mise en place de l'appli Portique Bus, on peut réserver sa place 3 jours à l'avance. Donc comme ça, ça évite la queue si on a bien un passeport biométrique.
Une mesure contraignante, mais qui est acceptée par la population.
Bah, de toute façon, l'état d'urgence, hein, va falloir s'y faire, alors bon...
Ils ont fait les devoirs, les petits.
Pour Mourad aussi, l'état d'urgence a changé l'organisation de sa vie.
Bah, on sait que les perquisitions, c'est inévitable. Alors...
Ça fait 12 jours que Mourad se prépare à l'arrivée de la BRI.
On a fait garder les enfants, on a poussé les meubles, on a prévenu les voisins en mettant un petit mot dans l'escalier, puis on laisse bien les portes et les fenêtres ouvertes, même s'il fait froid. Au prix du serrurier, il vaut mieux prévenir. Ah, je crois qu'ils arrivent. Fais bouillir le thé, chérie, je leur fais signe. Ouh, à l'Akbar, c'est au 3e. Ah non, merde, c'était les pompiers.
Comme vous pouvez le constater, l'état d'urgence est très bien appliqué et très bien accepté par la population. Néanmoins, il y a encore une petite poche de résistance.
Vas-y Gégé, tu me remets la main ?
Sur cette terrasse du centre-ville, un petit groupe d'amis refuse les nouvelles directives.
On va pas changer notre mode de vie. Hein.
Ouais, c'est notre mode de vie.
Ouais, notre mode de vie à nous.
Le groupe passe ses journées à la terrasse du Troquet sans se soucier de ce qui se passe dans le reste du pays et malgré le froid.
J'en ai rien à foutre. Tiens, je vais même reprendre des glaçons dans mon pastis.
Ouais, t'as raison. Résister, c'est picoler. Vas-y, remets-moi un pastis aussi, Gérard.
Bon, je vous rapporte ça, mais vous êtes sûr que vous voulez pas rentrer, là ? On peut fumer à l'intérieur, là, il commence à neiger.
Mais il est fou, lui, on est des résistants, nous, monsieur.
Attends, tu crois qu'on va céder parce que t'as mis des cendriers ?
C'est notre mode de vie de parisien libre et émancipé qu'on défend, là, ok ?
Oh, bon, moi, c'était juste pour vous, hein, vous faites comme vous voulez.
Encore un qui aurait dénoncé Jean Moulin. Mais nous, on nous aura pas. On est en terrasse, on est en terrasse, on est en terrasse. On est en terrasse.
Jusqu'à 19h.
Méga combi
prime time.
Le radiozine du mercredi sur Canu.
We're from everyone.
Le 13 novembre, j'étais au Bataclan pour aller voir les Eagles of Death Metal. Ça s'annonçait un chouette concert avec un public de fans, un public très énergique, bien énervé dès le début du concert. Je m'appelle Amandine, j'ai 34 ans, j'habite à Lyon, avant j'habitais à Paris pendant 8 ans.
Méga combi. Rencontre.
ça a commencé à tirer, on a pris conscience que très très vite que c'était des tirs. Mon ami a pu sortir au bout de 20 minutes, une demi-heure, à la faveur d'une personne qui a crié qu'il y avait une petite fenêtre pour sortir parce que les mecs rechargeaient leurs armes. J'ai réussi à me cacher pendant une heure et demie dans une bonne planque sous le parquet du bar. J'ai tout entendu, les gens qui crevaient, les terroristes qui tiraient, la BRI qui est arrivée, etc. J'ai vu que la fosse était jonchée de corps. On a enjambé des gens pour sortir. Je vais en rester là sur ce qui s'est passé parce que je pense qu'il y a énormément de témoignages et qu'en fait, maintenant, ce serait bien de passer à autre chose parce qu'il n'y a plus vraiment grand-chose à en apprendre sur les faits à part à se gargariser d'un espèce de voyeurisme malsain. On a été contactés par des médias, pas toujours la crème de la crème, hein, des trucs style Morandini, style le JDD, enfin des charognards en fait. Enfin voilà, il se passe un peu plein de choses, on passe par plein d'états, c'est bien le bordel psychologiquement et c'est bien le bordel ambiant aussi au niveau de ce qui se passe en France là depuis une semaine. Donc je crois qu'il faut être vigilant sur la parole en fait. J'ai risqué ma vie vendredi en allant à un concert et aujourd'hui, en mon nom, il se passe des choses que je cautionne pas du tout. Après ce qui s'est passé vendredi, je me sens insultée par ce qui est en train de se passer, par les conséquences de cet événement au niveau politique et au niveau sociétal, on va dire. Ça me choque parce que, en fait, la première réaction, dès le lendemain, ça a été de faire des frappes sur la Syrie. C'est ça la réponse qu'on a donnée à ces attentats. C'est des frappes sur un pays étranger. Alors certes, on dit qu'on a fait des frappes sur l'État islamique, mais je pense que bon, il y a sûrement quelques civils dans le tas qui se sont pris des bombes sur la gueule. J'ai lu que 91% des Français plébiscitaient la prolongation de 3 mois de l'état d'urgence. Et 94% le rétablissement des contrôles aux frontières. Ça me fait froid dans le dos en fait. Je crois que ça me fait autant froid dans le dos que ce qui s'est passé vendredi, quoi. Enfin, ouais, quand je disais pas en mon nom, enfin là, j'ai l'impression d'être à mille lieues de ce que les gens ont décidé en fait. Je sais pas ce que les autres personnes rescapées pensent, hein. Peut-être qu'elles sont très contentes qu'on soit dans une politique sécuritaire, mais enfin, je pense pas que restreindre nos libertés va changer grand-chose tant qu'on sera en guerre, tant qu'on vendra des armes, etc. Je suis en colère contre les institutions républicaines. Je pense qu'il faut se poser la question de... Qu'est-ce que ça veut dire être jeune et pauvre en France et d'origine maghrébine ? L'État a la responsabilité d'avoir abandonné une partie de la population, une population qui se précarise et du coup ben, qui se tourne vers des extrêmes. Alors des extrêmes religieux d'un côté, puis des extrêmes politiques de l'autre, puisque du coup maintenant les gens vont aller voter Front National en pensant que ça va les sauver des extrémistes religieux. J'attendais pas grand-chose hein, du PS au pouvoir, hein, j'en attendais pas grand-chose, mais j'en attendais pas ça en tout cas. Donc je crois que depuis 2012, j'étais un peu désabusée, je me suis un peu, pas dépolitisée, mais en tout cas j'ai un peu mis de côté ça pour faire la fête, pour profiter de la vie, pour faire un enfant, etc. Enfin, et du coup là, ça m'est un peu revenu dans la gueule. En fait, ça devrait un peu revenir dans la gueule de plein de gens. Soit on trouve autre chose, soit on est quand même obligé de s'en remettre aux politiques et il va falloir quand même changer gravement la donne parce que ces gens-là, enfin, ils nous représentent pas, quoi. C'est quand même affligeant comme ils nous représentent pas. je sais pas combien sont allés à Calais visiter la jungle, ou je sais pas combien, je sais pas si Gérard Collomb est allé voir le bidonville qui est à la sortie de l'autoroute là. Enfin voilà, ces gens-là, ils vivent dans quel monde quoi. Et pourtant, ils prennent des décisions à notre place, et je crois que ça me fait de plus en plus peur. En fait, je sais pas si je suis désabusée ou vénère, quoi, mais ça dépend des moments. Il y a pas mal de gens que j'aurais envie d'entarter en ce moment, mais... voilà, je pense que s'il faut prendre les armes, ce serait celle-là. Ou des bonnes tartes, quoi, des bonnes tartes dans ta gueule. Je pense qu'il y a des claques qui se perdent, et des tartes à la crème qui se perdent, et... Il y a du boulot, là.
C'est un fait, c'est donc un droit.
Méga Combi, lecture.
Mais c'est un droit qu'on ne discute pas. Vous devez vous adapter. Du reste, ne vous y trompez pas. Si je règne, c'est à ma manière. Et il serait plus juste de dire que je fonctionne. Vous autres êtes un peu romanesque et vous me verriez volontiers sous l'aspect d'un roi noir ou d'un somptueux insecte. Il vous faut du pathétique, c'est connu. Eh bien non. J'ai pris l'air d'un sous-officier. C'est la façon que j'ai de vous vexer. Car il est bon que vous soyez vexé. Vous avez tout à apprendre. Votre roi a les ongles noirs et l'uniforme strict. Il ne trône pas, il siège. Son palais est une caserne, son pavillon de chasse, un tribunal. L'état de siège est proclamé. C'est pourquoi notez cela. Lorsque j'arrive, le pathétique s'en va. Il est interdit, le pathétique, avec quelques autres balançoires, comme la ridicule angoisse du bonheur, le visage stupide des amoureux, la contemplation égoïste des paysages et la coupable ironie. À la place de tout cela, j'apporte l'organisation. Ça vous gênera un peu au début, mais vous finirez par comprendre qu'une bonne organisation vaut mieux qu'un mauvais pathétique. À partir d'aujourd'hui, vous allez apprendre à mourir dans l'ordre. Jusqu'ici, vous mouriez à l'espagnol, un peu au hasard, au jugé pour ainsi dire. Vous mouriez parce qu'il avait fait froid, après qu'il lui fait chaud, parce que vos mulets bronchaient, parce que la ligne des Pyrénées était bleue, parce qu'au printemps le fleuve Guadalquivir est attirant pour le solitaire, ou parce qu'il y a des imbéciles mal embouchés qui tuent pour le profit ou pour l'honneur, quand il est tellement plus distingué de tuer pour les plaisirs de la logique. Oui, vous mourriez. Mal. Un mort par-ci, un mort par-là, celui-là dans son lit, celui-là dans l'arène, c'était du libertinage. Mais heureusement, ce désordre va être administré. Une seule mort pour tous, et selon le bel ordre d'une liste. Vous aurez vos fiches, vous ne mourrez plus par caprice. Se mettre en rang pour bien mourir, voilà donc le principal. À ce prix, vous aurez ma faveur. Mais attention aux idées déraisonnables, aux fureurs de l'âme, comme vous dites, aux petites fièvres qui font les grandes révoltes. À partir d'aujourd'hui, vous serez donc raisonnable, c'est-à-dire que vous aurez votre insigne. Marqué aux aînes, vous porterez publiquement sous l'aisselle l'étoile du bubon qui vous désignera pour être frappé. Les autres, ceux qui persuadés que ça ne les concerne pas font la queue aux arènes du dimanche, s'écarteront de vous qui serez suspects. Mais n'ayez aucune amertume, ça les concerne. Ils sont sur la liste et je n'oublie personne. Tous suspects, c'est le bon commencement. Du reste, tout cela n'empêche pas la sentimentalité. J'aime les oiseaux, les premières violettes, la bouche fraîche des jeunes filles. De loin en loin, c'est rafraîchissant et il est bien vrai que je suis idéaliste. Mais je sens que je m'attendris et je ne veux pas aller plus loin. Résumons-nous seulement. Je vous apporte le silence, l'ordre et l'absolue justice. J'exige votre collaboration active. Mon ministère est commencé.
Albert Camus, La peste. M'énerver, puis j'y suis pas arrivée. Je me concentrais, puis des fois ça venait, mais c'est l'impuissance qui me submergeait. Je voulais me foutre en colère, mais j'y arrivais pas toute seule. Je voulais m'enrager, mais c'était trop dur. Alors je suis allée voir Sophie pour essayer à deux. Avec Sophie, on s'est dit qu'on avait un gros problème.
De toute façon, c'est la Marseillaise, hein. Et puis la Marseillaise, qu'est-ce qu'elle est agressive. Les chants de la Marseillaise, là, avec les drapeaux français, ça... Puis ça veut dire quoi, ce drapeau français, en fait? Parce que c'est ça qui m'énerve, c'est ces espèces de replis, de récupération, on fait semblant d'être unis autour d'un pays. Tu sais, quand j'ai vu sur Facebook tous les gens mettre des drapeaux français, franchement, ça m'a trop gonflé. Ça m'a trop gonflé. En plus, que ça soit par Facebook, les réseaux sociaux, c'est quand même des gros dominateurs de, enfin, qui savent tirer leur épingle du jeu, tu sais, dans l'économie, dans les valeurs de... Et je supporte pas. Et j'ai du mal à comprendre exactement pourquoi, hein, mais je me suis dit, mais c'est... Je crois que c'est parce qu'il y a un côté... Je sais pas si c'est trop facile ou quoi, mais j'ai vu aussi plein de messages passer, genre... Ouais, bah nous on continue, regardez, on est dans un bar, on boit du vin, on bouffe du saucisson. Ou les gens le samedi matin, les rues à Dijon, j'étais à Dijon, c'était blindé de monde. Les gens ils faisaient des magasins comme si de rien n'était, et puis tout ce qu'ils savaient dire c'était ouais, bon, on va quand même pas avoir peur, on va continuer notre vie, bah ouais. Je sais pas, il y avait une espèce de truc, je me suis sentie hyper seule. Un petit café?
Ouais.
Je suis aussi en colère contre la récupération de tout le monde d'événements, comme le gouvernement. Je sais pas, ils sont malhonnêtes toute l'année, on se fait... toute l'année, on se fait entuber, on se fait dominer. Enfin, on est dans des sociétés où il y a des valeurs. C'est quoi? C'est le capitalisme, la consommation. On n'en a rien à foutre. On utilise le pétrole qui sert à Daesh. On continue, on pille tout le monde, on rejette de plus en plus les migrants. Et là, tout d'un coup, tout le monde est ensemble et on est dans une unité. Non mais, franchement, c'est quand même la merde, quoi.
Voilà, voilà, on y est. Vous êtes des grosses merdes. Et les mecs là-haut, si vous m'entendez, je vous ai pas choisi. Je me désolidarise de vos actes et de vos choix politiques. Je vous ai pas choisi. Vous êtes des grosses merdes. Puis je vous emmerde. Je vous aime pas. D'ailleurs, je vous hais. Vous récupérez tout pour vous. Vous avez complètement oublié pourquoi vous êtes là. Vous n'avez aucune consistance. Vous avez l'air propre, mais dedans, c'est de la merde. Du caca, de la merde.
Parce que si les jeunes, ils sont... Enfin, pourquoi ils vont faire ça, quoi? Pourquoi ils se laissent... abuser comme ça, ça prouve qu'il y a une faille énorme dans ce que la société française elle peut leur offrir aujourd'hui, comment elle les considère. Voilà, enfin, c'est toujours la même chose, hein, mais ça remet en question énormément de choses. Et moi, j'aimerais bien qu'ils se disent ça aussi, qu'ils se remettent vraiment profondément en question. Au lieu de. C'est facile, hein, c'est plus facile hein, d'aller trouver un ennemi, d'aller à l'extérieur de soi, quoi. Alors qu'en fait, il y aurait énormément de choses à faire ici. Puis on se sent impuissant. Quoi faire? Parce que c'est... Ouais, c'est bien de râler, mais qu'est-ce qu'on fait? Bon, je me dis, j'essaye de me comporter à peu près bien.
Et si on avait du temps? Du temps et de l'espace? Du temps pour se poser des questions et pour parler. Des espaces de réflexion. Par exemple, du temps banalisé pour réfléchir à nos différentes places dans la société. Nos places de travailleurs, nos places d'élèves, nos places de personnes désirant se former, nos places de femmes, nos places d'hommes, nos places d'entre hommes et femmes, nos places de parents, nos places d'enfants, nos places de chômeurs, nos places de créateurs, nos places de chercheurs, nos places de tout ce que vous voulez. Pour avoir du temps, il faudrait être un peu dégagé des pressions de l'emploi. Il faudrait avoir un revenu de base. Et si on n'avait plus à s'inquiéter des fins de mois? Et si on pouvait se faire soigner quand on en a besoin par des médecins qui nous donnent le choix? Et si les plannings familiaux étaient partout, avec des cabinets de gynéco accueillants et assez nombreux pour ne pas attendre son rendez-vous 3 mois? Et si on ouvrait les lieux inhabités pour les personnes dehors? Et si les transports en commun étaient gratuits? Et si l'aller-retour Paris-Lyon était à 10 euros? Et s'il y avait vraiment une vraie personne pour prendre en charge notre demande? Et s'il y avait une vraie personne au bout du fil?
Je suis toujours en colère. Ça ne se voit pas, c'est parce que je m'applique. Je fais comme tout le monde. Je trompe.
Vous êtes bien en état d'urgence et vous écoutez la méga combi. Radio Canu 18h30. Salam El Kobri.
Salam Combi. Tout de suite des nouvelles qui urgent. 10 jours après les attentats de Paris, le monde, toujours choqué, sort peu à peu de sa torpeur et reprend sa marche inexorable vers le bonheur ou l'apocalypse. Les colonnes de migrants se sont remises en route après un long sitting solidaire à la frontière macédonienne. Au Sahel, on s'autorise de nouveau à avoir faim et les affiches « Je suis Paris » commencent à être recouvertes de sable. Enfin, en Asie, les glissements de terrain, inondations et autres catastrophes naturelles ont doucement repris cette semaine.
La confusion reste toujours totale en Belgique.
Bruxelles, ville fantôme, les métros ne circulent toujours pas, les écoles n'ont pas réouvert leurs portes, des portes qui restent fermées un peu partout dans la capitale, des rideaux de fer qui sont restés baissés dans les galeries marchandes complètement vides. Les Bruxellois restent calfeutrés chez eux face aux menaces de l'État islamique en Wallonie et au Nord-Pas-de-Calais-Picardie, qui continuent de faire pression sur les autorités pour forcer l'ouverture des commerces le dimanche.
Pendant ce temps, l'OIGP a livré un rapport accablant sur l'état des grands principes en France.
Et oui, dans son rapport annuel, l'Observatoire international des grands principes classe la France à la 77e position entre le Totalistan et les îles Maladives. Des grands principes en bien mauvais état dans cette République d'Europe de l'Ouest, où ils ne sont plus sérieusement entretenus depuis des années. Une égalité rouillée, des libertés en voie d'extinction ou qui ne survivent qu'en captivité, et des débris de fraternité rejetés chaque année dans les océans. L'OIGP recommande toujours l'abolition pure et simple de la Marseillaise et encourage la population du pays à ranger les drapeaux, tous les drapeaux.
Avec l'état d'urgence, des détecteurs de laïcité vont être mis à disposition dans les mairies.
Vous pouvez les louer pour une heure ou à la journée. Il existe également des abonnements mensuels. Alors la nouveauté avec ces nouveaux détecteurs de laïcité, c'est qu'ils ont été miniaturisés. Ça tient maintenant dans la poche. Souvenez-vous de la première génération de détecteurs qui ressemblaient à des aspirateurs et se portaient à l'épaule. C'était vraiment pas très pratique.
Alors ils émettent un signal lumineux ou sonore en cas de signe ostentatoire religieux. Attention à bien les régler, ils sont très sensibles. Veillez à l'éteindre si vous traversez la presqu'île ou le marché de Noël.
Et puis développement durable, la COP21 c'est bientôt. Aujourd'hui plus que jamais, il faut avoir des comportements éco-responsables.
Et oui, on arrête avec les gestes stupides, plus jamais les ceintures d'explosifs dans les encombrants, les grenades à main, c'est pas dans le bac vert. Et puis si vous shootez quelqu'un dans un espace vert, ramassez vos douilles, ce n'est pas biodégradable.
Et puis il nous a quittés.
Et oui, Abou Ismaël Albacdinho, cinéaste brésilien plusieurs fois primé au Festival de Cannes. On se souvient aussi de sa fouine d'argent en 1994 pour Smurf, un triptyque éblouissant sur la vie des hamsters en cage. Tenté par le porno soft koweïtien, Albacdinho vivait reclus dans les montagnes du Cachemire depuis des années. Il a décidé de mettre fin à ses jours vendredi dernier en s'injectant une semaine d'actualité BFM en continu. Son corps et son téléviseur ont été retrouvés au fond d'un ravin. Bon vent.
El Kobri. Économie. Éco. El Kobri économie. Éco. El Kobri économie. Éco.
On retrouve Jean-Pierre Connard à la bourse.
Oui, Kobri, ici en direct du Palais Grogneur, c'est l'effervescence à l'occasion de l'entrée en bourse de ce qu'il convient désormais d'appeler le marché de la frousse. Calqué sur le marché des émissions de carbone, ce sont désormais les peurs individuelles et collectives qui sont cotées et échangées. Ce marché est à portée de toutes les bourses et on trouve déjà des valeurs intéressantes parmi les petites trouilles du quotidien. La peur des examens et la peur de se faire engueuler parce qu'on est encore rentré tard et bourré ont connu une belle progression dès leur introduction à la corbeille. Sur le marché des phobies, la fusion annoncée de la hantise des araignées et de l'avion devrait donner lieu à une offre publique d'achat favorable aux actionnaires patients. Enfin, sur le marché international des peurs, déception pour la peur du changement climatique qui décidément n'effraie pas grand monde et peine à séduire les investisseurs institutionnels qui demeurent dans l'attente de l'introduction en bourse de la grande peur collective de ce que l'on nomme déjà les Facebook de la peur, Daesh et le terrorisme islamiste qui annonce une ouverture de capital à hauteur de 170 milliards d'euros. Et vu l'agitation qui règne autour de ce titre, il y a fort à parier que ce pari de la peur pourrait être gagné dès son premier jour de cotation. En direct du Palais Grogneur, c'était Jean-Pierre Connard pour Méga Combi.
La météo des mots d'urgence avec les expressions passe-partout, Slim News.
Demain, les mots resteront figés sous un ciel de plomb. On devrait entendre dès l'aube demain matin les mots terrorisme, djihadisme, attentat et kamikaze. Plus tard dans la journée, de vrais attentats devraient se produire, mais sans doute dans le lointain, l'état d'urgence de force 7 à 8, renforcé par l'effet du mainstream, balayera tout le territoire français, tandis que la radicalisation ressentie sera élevée. Il fera même chaud en milieu de journée dans les rames de métro, un effet sans doute et un de plus de la réalité des changements sémantiques.
c'était la météo des mots d'urgence avec les expressions passe-partout Slim News.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que les dictionnaires, ça se lit depuis le début, sinon on comprend rien.
La prime team de Méga Combi, tous les mercredis à 18h sur Canu.
Soir des attentats, j'étais à la maison. On est en train d'admirer les grimaces de Jean. C'est un bébé de 2 semaines, suite de mes colocs. Et la radio était éteinte.
Moi, vendredi 13 au soir, j'ai perdu à la super cagnotte de l'Euromillion.
Moi, ce soir-là, je faisais du foot.
Moi, vendredi soir, j'étais dans un petit resto à Vérone, en Italie, avec mon amoureuse. C'était chouette.
Bah, moi, vendredi 13 novembre, j'étais en terrasse. Hein, et ça s'est super bien passé.
J'étais chez des amis. Je dormais chez un ami. Après, on a vu ça aux informations, on a cru que c'était pas très très grave quoi. On n'a pas réalisé sur le coup. Bon, après c'est passé, on a dormi. Et le lendemain, on a réalisé qu'il s'était passé un truc. Comme en référence à Charlie, il s'était passé un truc encore plus grave. C'est horrible. Et tuer des gens, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec notre religion, avec l'islam.
Méga Combi.
Je m'appelle Jessim, j'ai 16 ans, j'habite à Mézieux. Voilà, je suis un jeune lyonnais.
Rencontre.
Donc samedi 14, on voulait sortir avec des amis, se promener quoi, essayer d'oublier. On est parti manger au restaurant. Ensuite on s'est promené sur la place Bellecour. Et sur la place Bellecour, il y avait un rassemblement à la mémoire des victimes. J'ai été curieux un peu, donc on est parti, on a jeté un petit coup d'œil. On a vu des bougies, des choses écrites au sol, donc juste pour jeter un petit coup d'œil quoi. Ensuite, j'ai commencé à partir vers le métro et à ce moment-là, 3 personnes nous ont interpellés. Il y avait une personne qui me parlait et il y avait une personne à sa droite, une personne à sa gauche. À peu près à la 30aine quoi. Un peu alcoolisé. Je savais que c'était pour en découdre. Je l'avais vu dans leurs yeux quoi. Il m'a posé des questions, il m'a dit « Qu'est-ce que tu penses de ce qui s'est passé hier aux des attentats de Paris en référence à ces attentats ?» Je lui ai dit « Je suis comme tout le monde, je suis comme vous. » Il m'a répété la question, je lui ai dit « J'ai pas envie d'en discuter, j'ai pas envie de débattre de ça. » Après il m'a dit « Tu veux nous imposer la charia dans notre pays ?» Je lui ai dit « J'ai pas envie de parler de ça, j'ai pas envie de débattre, j'ai essayé de partir quoi. » Il m'a dit « Les musulmans c'est tous des terroristes. » Je lui ai dit « Non, c'est pas vrai. Les terroristes ils ont pas de religion quoi. » Je lui ai dit ça et celui à sa droite il m'a mis une patate. Ensuite celui qui me parlait m'en a mis une deuxième dans la tête. Je suis tombé par terre. J'ai senti des coups de pied. Ensuite, je me suis relevé. J'ai reculé, j'ai buté sur un chien. Il aboyait quoi quand je me suis relevé et j'allais lui tomber dessus. Ensuite, j'ai couru vers la police municipale qui était garée à même pas 30 mètres. Et au moment où je courais, il criait « Islam hors d'Europe ». Une 20aine de personnes criaient « Islam hors d'Europe » comme une manifestation, comme vous voyez dans les manifestations des identitaires. Directement, j'ai compris. Et un monsieur sur la place, il est venu en courant vers moi, comme je me suis fait frapper. Il m'a dit, ces gens-là, c'est identitaire, ils servent à rien. Ils sont venus, ils veulent frapper, c'est tout. C'est des gens d'extrême droite. Tout le monde pensait que c'était des identitaires, quoi. Je connaissais déjà par rapport aux infos, ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont profané des mosquées. Ils étaient venus aussi pendant les matchs de l'Algérie. Ils faisaient beaucoup de manifestations. Vu que j'étais basané, que je portais une tenue traditionnelle maghrébine, Afrique du Nord, ça s'appelle un camis. Et vraiment, c'est parce que j'étais musulman, je pense. Ouais, c'est ça. Et ils m'ont vu, au faciès, quoi, des fachos. Qu'ils ont rien dans la tête. Ils sont comme ceux qui ont commis les attentats, quoi. Frappe pour frapper, même des innocents. Daesh identitaire, c'est la même chose. Daesh identitaire, c'est la même chose. Pendant l'agression, j'ai rien ressenti. Vraiment, je me suis relevé, je suis rentré au poste de police. Au poste de police, je commençais à avoir super mal. Je commençais à avoir très très mal au dos, en bas, la jambe. Je commençais à avoir super mal de partout. Donc, le policier, c'est pour ça qu'il m'a dit d'aller. Il voulait appeler les pompiers au début. Je lui ai dit, j'irai à la clinique du Grand Large le lendemain. Je pensais que c'était pas très très grave, quoi. Et ils m'ont dit, vertèbre brisée. J'ai une ceinture lombaire. Et j'ai une entorse à la cheville, des contusions, des hématomes. Quand je fais des mouvements, ouais, ça me fait mal. Ouais, voilà, ça, quand je me lève, je le ressens, quoi. Quand je marche aussi un petit peu. J'ai 45 jours d'arrêt de sport et j'ai 30 jours d'ITT. Je vais quand même en cours. Je suis pas obligé, mais franchement, si je vais pas, je vais rater beaucoup de cours. Et ça va me tuer mon année scolaire. Je suis en première STMG. Ça marchait plutôt bien. Je suis pas bien en cours, je suis ailleurs, quoi. Je repense, quoi. J'ai des flashs de l'agression, je repense. Je suis encore choqué, quoi. Parce que c'est la première fois qu'il m'arrive un truc comme ça. Des gens de 30 ans, la trentaine, sont s'en prendre à un mec de 16 ans, et en plus à un groupe, une dizaine de personnes. Mais vraiment, une dizaine de personnes. C'est des lâches. Il n'y a pas d'autre mot, c'est des lâches. Nous, les musulmans de France, on se sent plus en sécurité. Je vais vous dire la vérité, les attentats de Paris qui s'est passé le vendredi soir, j'avais pas peur de sortir le samedi matin, quoi. Alors que maintenant, après l'agression, j'ai une appréhension avant de sortir, d'aller prendre le métro ou le tramway. Alors que, en gros, ils m'ont fait plus peur que ces terroristes. Si l'État, vraiment, il serait avec nous, il laisserait pas des affaires comme ça se laisser passer. Parce qu'il y en a eu plein. Il y en a eu plein. Mais le Français qui vit dans sa campagne, qui n'a pas de musulmans autour de lui, il a quoi comme image du musulman? L'image que la télé donne du musulman, quoi. Il sait pas la réalité. En fait, on veut faire croire aux Français que les musulmans sont comme ça, comme si. Alors que c'est tout le contraire. Les jeunes qui s'embarquent dans Daesh et tout ça, ils sont perdus dans la tête un peu. On leur dit des choses sans qu'ils cherchent à comprendre. Tous les grands savants de l'islam, ils sont d'accord pour dire que Daesh, c'est une secte. Ils respectent aucun précepte de l'islam. Il y a même des savants de l'islam qui disent que ces personnes-là, on peut les excommunier. Il faut les sortir de la religion, ils les rendent mécréants, ces personnes. Daesh identitaire, c'est la même chose. Moi, je trouve, franchement, bombarder la Syrie, ils doivent pas faire ça, quoi. Il y a des enfants, il y a des femmes, il y a des vieux, des nourrissons, des bébés. Je regardais sur les réseaux sociaux, un hôpital pour enfants, il a été bombardé par la France et la Russie. Des nourrissons morts, retrouvés sous les décombres. Mais ça, ils le montrent pas à la télé. C'est pour ça que moi, je dis, faut pas répondre à la force par la force. Parce qu'ils attendent que ça.
Toi, tu te sens français dans ces grands élans où on voit du bleu, blanc, rouge partout, tout le monde sort son drapeau
Vraiment, je me dis français, mais eux, ils nous montrent qu'on n'est pas français. Ils nous font ressentir qu'on n'est pas français, quoi. Après, ça vous donne pas envie de dire que vous êtes français. Ils font tout pour qu'on dise qu'on n'est pas français. Faudrait plus de réactions, faudrait qu'on réagisse. Faudrait qu'aussi les Français, ils se réveillent, ils disent qu'eux, ils ont rien à voir avec. C'est comme le Daesh, ils ont rien à voir avec les musulmans, les identitaires, ils représentent pas tous les Français, quoi. Voilà, après, tout le temps, on demande aux musulmans, vous condamnez. Mais bien sûr que oui, qu'on condamne. Mais il n'y a pas à s'excuser, on a rien à voir, nous. Voilà, on est comme tout le monde. Pourquoi s'excuser sur une chose qu'on a rien à voir? Identitaire, c'est la même chose.
Méga combi. J'ai des astres en viseur qui me portent la poisse. Ma carcasse absente de l'enregistrer leur cadastre. Ma
gueule encadrée dans leur liste et leur cave. Le code génétique qui trahit à chaque fois je me déplace. Soudain sur deux lignes à la une, on m'affuble, mon image dissoute à la crasse et à l'usure. Et pour m'expliquer sur l'origine de mes séquelles, j'ai le droit à mon briquet et mon essence culturelle. La suite est lisible et les muselières suivent. Entre la plaie, l'acide et la pile de missives, la lucidité gagne mais ne prévient pas des dérives. La carotte, la cravache garantissent l'offensive. Mascotte humanitaire en marge des sommets mondiaux, ma sale gueule en prime pour récolter la sève. Oblitération des aspects psychosociaux et chacune de mes rimes passées sur leur bureau. En guise de nos futurs, nos veines en pâture, nos cœurs se déshydratent quand les gros titres annoncent qu'un nouveau conflit éclate. Scandaleuse presse suspendue à chaque lèvre, imprimée sur les flancs jusqu'à décoller la plèvre. La rétine en face sur cadre en prioritaire et une existence sur fond de régime autoritaire. La mort en capsule et en terre ferme, la peur qui recule à chaque verre à l'épiderme. Ma mâchoire d'arabe accrochée aux barrières, en conclusion se dérobe au pipeline et aux bannières. Souffrez de sac, des orteils à la tête, la mèche allumée par ma dernière cigarette. La frontière du sort, je suis la pioche au tunnel, sous le phosphore en salve et les coups de soleil.
Salut à toi, peuple des oreilles. Ouvre les esgourdes et laisse couler en toi la petite phénoménologie du quotidien en modulation de fréquence.
Autopsie à vif d'un monde mourant.
Il est de retour, le sous-commandant Marco, et il est en colère cette semaine.
La colère d'Achille, déesse chante-nous-la. C'est la première phrase de l'Iliade, la première phrase du premier livre de la civilisation gréco-latine dont nous sommes issus. L'histoire d'une colère, de la colère d'Achille, qui sera pendant 1000 ans le personnage le plus représenté dans l'art et la statuaire avant d'être détrôné par Jésus. Achille, l'incarnation de la colère, omniprésente et glorifiée. Achille est animé par le thymos, le souffle de vie qui nous traverse lorsque, pareil au radar des chauves-souris, nous envoyons un signal au monde dont le retour n'est pas conforme à l'ordre cosmologique, lorsque les choses ne sont pas ce qu'elles devraient être. Lorsque le père de Hamlet revient le hanter, il lui dit que l'époque est hors de ses gonds. Le roi, son beau-père, est en fait un assassin. Le passé était porteur de promesses d'avenir qui ne sont pas advenues. Le présent est une erreur. La colère est une relation au futur non advenu dont les jours passés étaient en gestation. La justice est une réparation de cette colère. Elle veut sortir le monde de l'hubris, de la démesure, pour le remettre sur les gonds de ce qui aurait dû être. La décision de justice est une narration du monde tel qu'il aurait dû être et elle fait payer ceux qui l'ont détourné de son cours. La colère est l'expérience confrontée à la perte du sens. La justice est un récit qui vise à restituer un sens à l'expérience. La colère n'est pas malsaine en soi. Elle est le moteur de l'éthique, le moteur de la justice en devenir. La colère nous aide à nous tenir droit dans un monde tordu. Mais la colère est une planche glissante sur une mer houleuse. La colère est proscrite pour des considérations morales, mais revient, comme un retour du refoulé, tempétueuse et dévastatrice. Parce qu'on n'apprend pas à la travailler, la colère se transforme en force de destruction. La colère nous anime contre. La colère va en finir avec le capitalisme, en finir avec le fascisme ou avec l'immigration, en finir avec le patriarcat ou avec les féministes, en finir avec le terrorisme ou avec les croisés, avec les religions. La colère devient un monstre aux yeux verts qui produit l'aliment dont il se nourrit. La colère veut en finir et devient contagieuse. Ophélie devient folle, Polonius va mourir, Hamlet va mourir, il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. La colère est contagieuse et tout le monde doit mourir. Débordant de colère, on se bombarde les villes syriennes, on s'explose aux terrasses des cafés. La colère gonfle, un voile rouge nous brûle les yeux et on ne voit plus les autres. Leur mort ne compte plus pour nous, comme nos morts ne comptent plus pour eux. Il n'y a plus de commune humanité. La colère a opéré une scission. Elle a divisé la tribu de l'ensemble. Elle a aboli l'humanité et dévore peu à peu ses enfants. La colère est un bon valet, mais un mauvais maître. Pourtant, la colère est nécessaire. Elle nous aide à façonner notre monde. Elle est un moteur de l'éthique. Lorsque Nelson Mandela est sorti de prison et devenu président d'Afrique du Sud, il a résisté aux pressions qui lui demandaient de promulguer des lois rétroactives pour punir les pires atrocités de l'apartheid, malgré la colère. Parce qu'il ne pouvait pas non plus ignorer les meurtres et les tortures, il a établi une commission Vérité-Réconciliation qui échangeait l'amnistie contre la vérité. Un récit partagé pour pouvoir vivre ensemble. L'enjeu véritable de la justice, l'enjeu véritable de la colère, pouvoir continuer à avancer. C'est peut-être ce qui a évité une guerre civile à l'Afrique du Sud. La colère se mutualise, elle se dépose dans des comptes communs, des forces de construction. La colère ne peut s'assouvir vraiment, c'est-à-dire nous resituer dans le monde tel qu'il est devenu, tout en se souvenant de ce qu'il aurait dû être qu'en construisant ce monde, qu'en remettant l'époque sur ses gonds. La colère ne s'assouvit vraiment que lorsque la frustration devient projet, que le projet devient justice. Ce récit commun qui sépare la victime de sa souffrance et le coupable de son crime, pour que le monde soit de nouveau partageable dans la commune humanité. La colère est une glaise, elle se façonne ou on s'y englue.
So many things that get me angry and so many things that get me mad. So many things that get me angry and I gotta say. So many things that get me angry and so many things that get me mad. So many things that get me angry and I gotta say. When I think about bush and I think about beer, have my people living in fear. With every country them interfere with the suicide bomber them everywhere. And they're matching up our atmosphere. The whole soul they are. In the gutter, with every line on the DJ utter. Me know them a go melt like butter.
Mégacombi.
Du 30 novembre au 11 décembre, les délégués de 195 pays vont se réunir à Paris pour la 21e conférence des partis.
La COP21.
À Mégacombi, nous savons que sauver la planète est l'affaire de tous. Nous sommes concernés.
Vous êtes concernés.
Week-end d'éco-formation, mise en place d'une charte de l'émission durable, réhabilitation écologique des studios. Radio Canu a tout essayé.
Pourtant, le bilan carbone de la Mégacombi reste désastreux.
Des disques durs qui tournent tout le temps, des pauses midi pleines de sandwichs sauce OGM, du coca dans des montagnes de gobelets en plastique, des 4x4 pour arpenter la Croix-Rousse et des billets d'avion pour enregistrer 5 minutes de manif à New York ou pour aller faire la fête à Brest. La Méga Combi est une émission qui coûte cher à la Terre.
Pour chaque heure de Méga Combi, ce sont pas moins de 2,6 gigatonnes de CO2 émises.
2,6 gigatonnes de CO2.
Ce qui fait plus de 100 gigatonnes par an.
Heureusement, le cabinet de conseil Green FM nous a proposé une solution climat implacable pour devenir une émission propre, 100% neutre en effet de serre.
Green FM.
Et cette solution, elle dépend de vous, auditeurs.
Méga Combi lance aujourd'hui une grande course aux éco-gestes pour sauver la planète.
C'est la Green Méga Combi Race. Faites un éco-geste en écoutant Méga Combi, prenez-vous en photo et postez-la avec le hashtag Ecoradio.
Hashtag Ecoradio.
Chaque éco-geste d'auditeur rapporte des grammes de CO2 à la Méga Combi.
C'est la Green Méga Combi Ways.
Votre mission, une émission sans émission.
Green Méga Combi Ways. Hashtag Ecoradio. Green Méga Combi Ways. Méga Combi Ways. Green Méga Combi Ways. Green Méga Combi Ways.
On pollue, vous compensez.
Green Méga Combi Race. Moi, j'ai pas arrêté de marcher toute la semaine à pied. J'ai compté, j'ai fait 8 km et 512 mètres. C'est pas mal, hein? Ça fait 6 kilos équivalent CO2.
Mais t'as rien compris, Zébril.
Rien du tout.
Non, les auditeurs qui doivent marcher en écoutant la radio. Nous, on fait ce qu'on veut. Moi, par exemple, je suis venu chercher le courrier de la radio toute la semaine en taxi. Enfin, tranquille, quoi.
Ouais, bon, ok, mais alors, il en est où, là, le compteur de CO2 de la Green Méga Combi Race?
Eh ben, il en est à 1243 kilos. Wow. Merci, tout le monde, les auditeurs. Merci à Super Bobo qui a tweeté une photo de lui en train de pisser dans un violon. Bon, rappelez-vous qu'une chasse d'eau, c'est 10 litres de gaspillé. Hein. Merci aussi à Alex et sa bière locale. Ça aurait été encore mieux de boire de l'eau, mais c'est déjà bien, Alex. On a eu aussi Kader, le boss des nez, qui ne se chauffe plus depuis qu'il a écouté l'émission la semaine dernière. Courage, Kader, remets une couverture. On est avec toi.
Ouais, Combi, je t'arrête là. Ouais, c'est bien votre jeu, mais je ne sais pas si vous avez vraiment mesuré les conséquences.
Quoi ?
À Bruxelles, les gens s'inquiètent. Les jeux de ce genre se multiplient dans toute l'Europe et pas sans incident. Il paraît qu'ils réfléchissent à une interdiction pure et simple des hashtags comprenant les mots éco, vert ou solution.
Ah, alors attends, effectivement, ça m'a fait penser à un tweet qu'on a reçu de Julie34. Voilà, elle nous dit « Mobilisation générale pour le climat, je ne donnerai plus de croquettes à mon chat jusqu'à nouvel ordre, autonomie alimentaire et libération animale. » Hashtag Ecoradio.
Ah ouais, mais forcément, si n'importe quel taré antispéciste s'empare de notre jeu pour débiter ses inepties sur Internet...
Oui, d'autant que les chats sont domestiqués depuis plus de 1000 ans. C'est hyper dangereux de vouloir les rendre à l'état sauvage maintenant. C'est carrément irresponsable.
Et ben voilà, je crois que c'est clair. Ecoradio, c'est dangereux. C'est la porte ouverte aux extrémismes de tout poil.
Wow, attends, on va pas céder aux tentations sécuritaires non plus. Hein. Il y a un enjeu là. Il faut sauver la planète. Il faut se mobiliser. Et tant pis si quelques chats y passent. Hein. Non, moi je le dis. Ecoradio, on continue. Auditeurs, à vous les éco-gestes.
Hashtag Ecoradio.
Mais...
Radio Canu.
Bon papy, tu m'accompagnes à la déchetterie ?
Oh bah je ne sais pas là, maintenant ?
Mais si, allez, viens, ça te fera prendre un peu l'air.
Dans nos sociétés occidentales, on est souvent démunis face à la vieillesse. On ne sait plus s'occuper de nos vieux.
Bonjour madame. Je sais pas où on le met ça.
Faites voir ça. Alors ben, vous le mettez dans le bac noir là, juste à droite, après l'électroménager.
Ok, merci.
On fait quoi, fils ? On descend ?
Non, bouge pas papa, je vais me garer devant le bac directement, ça sera plus pratique pour toi.
Le recyclage des vieux, c'est l'affaire de tous.
Coucou, c'est moi, je suis rentré.
Ça s'est bien passé avec papy à la déchetterie ?
Mais écoute, comme une lettre à la poste, ils sont drôlement bien foutus ces bacs.
Trouvez le point de collecte le plus proche de chez vous sur le site vieux-usager/vieux_recycler.gouv.fr. Prochaine méga combi, c'est mercredi.
Je suis passé dans le coin, je me suis arrêté. Hey, pourquoi pas, c'est pas interdit que je sache. La bombe n'a pas été déposée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un attentat suicide.
C'est une batterie nucléaire.
Les indices nous font penser que c'est votre femme qui a enclenché le détonateur. Rendez-le. C'est de la folie.
Je ne peux pas me payer le luxe d'avoir peur, Jack.
Combien votre société estime-t-elle ce type d'amour? Eh oh, vous m'écoutez?
Si tu veux ta dose de méga combi avant le prochain mercredi, va sur internet et tape méga combi.
C'est fini, je comprends pas.
Qu'est-ce que tu te moques de moi ?
Méga combi, c'est fini.
Méga combi, c'est fini.
Méga Combi, c'est fini. La prochaine Méga Combi, c'est mercredi.
Dans un instant, c'est les infos.
C'est fini là. Ah, ah, un mercredi, putain, un mercredi prochain.